Marie Andriol, vous êtes chargée de coordination de programmation. Bonjour.
Bonjour.
Et Léa Drévon, vous êtes chargée de communication.
Bonjour, tout à fait.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de travailler au Vidéodrome 2 ?
Ah, y a beaucoup de choses. Moi, ça fait 3 ans que je suis au Vidéodrome 2. Je pense que ce qui est plaisant, c'est la diversité des personnes qu'on y rencontre et avec qui on y échange, parce que c'est avant tout un lieu d'accueil, autant des programmations que des publics. C'est un lieu qui porte 320 programmations par an sur 6 jours par semaine, donc on n'est pas un cinéma soumis aux actualités. Donc vous pouvez vous imaginer la diversité de films, de formats qu'on passe et toutes les personnes en fait, qui portent ces programmations-là. Parce qu'il y a l'équipe qui porte les programmations et il y a tous les gens qu'on accueille, des associations militantes, des festivals, nos amis, notre cercle, voilà.
On reviendra plus tard sur le fait de comment est-ce que vous programmez des films dans ce lieu-là. Mmh. Et vous, Léa, qu'est-ce qui vous plaît dans ce lieu-là ? Au départ de l'émission, j'ai dit que vous étiez toutes les deux cinéphiles et utopistes. Est-ce qu'il faut être cinéphile pour travailler au Vidéodrome 2 ?
Alors, ça dépend pour ce qu'on vient y faire. Mais effectivement, moi, je rejoins Marie. Je travaille au Vidéodrome 2 depuis maintenant 1 an. Et ce qui me plaît, c'est toute la diversité des formats de séances que nous proposons. Ça passe des morceaux d'histoire du cinéma, des films de patrimoine, du cinéma expérimental, des films souvent militants, engagés, du court-métrage, du long-métrage, des objets aussi un peu plus expérimentaux, comme des objets non identifiés, des documentaires de création, des documentaires musicaux... sans omettre la pop culture qu'on met aussi en avant, des films d'animation. Et voilà, c'est vraiment pour cette diversité-là que j'aime la programmation du Vidéodrome 2.
Alors Vidéodrome 2, d'ailleurs, pourquoi ce 2 ? Parce que ce lieu a eu déjà une autre adresse, ça fait déjà 10 ans qu'il existe.
Oui, en fait, le Vidéodrome 2, c'est un projet qui existe depuis 10 ans et qui hérite du Vidéodrome tout court, qui était juste une vidéothèque, un vidéoclub qui se trouvait rue Vian. Donc c'est toujours très proche de Fréquence Mistral, c'est à 2 coins de rue de l'emplacement actuel du Vidéodrome 2 sur le cours Julien. C'était un vidéoclub qui, en fait, a réussi à croiser des réseaux, des personnes cinéphiles et qui a créé un réseau cinéphilique, on pourrait dire, en croisant des passionnés de cinéma, en fait, qui, quand le Vidéodrome a fermé, pour des raisons économiques qu'on connaît liées à la fin des vidéoclubs, on l'a bien vu à la fin des années 2000, ont décidé de reprendre ce qui s'était créé là-bas pour en fait, créer le Vidéodrome 2 et pouvoir avoir un lieu pour partager du cinéma tout en étant salarié pour le faire.
Et dans ce Vidéodrome 2, vous gardez la trace de cette mémoire un peu du lieu parce que la vidéothèque existe toujours, c'est toujours possible de venir louer des DVD, mais aussi la mémoire en général du cinéma, du temps passé et de l'évolution de nos usages parce qu'il y a aussi la projection en numérique mais aussi en pellicule. Alors... Rappelez-nous qu'est-ce qui est particulier dans la diffusion avec des pellicules plutôt qu'avec du numérique et pourquoi continuer à s'enticher du 35 mm, c'est comme ça qu'on l'appelle. 35 mm, c'est le format, je crois, de la pellicule pour le cinéma argentique.
Oui, il existe du 35 mm, du 16 mm et du Super 8 également. C'est effectivement la largeur de la pellicule. C'est vrai que ça peut paraître pour un peu un fétiche cinéphile, mais en fait, pour nous, c'était important de pouvoir toujours montrer les films dans leur format d'origine. En fait, c'est un travail de cinémathèque, finalement, c'est un travail de conservation, d'archives, de transmission de la mémoire, parce que le lieu se positionne dans un certain héritage aussi, qui est celui des ciné-clubs, donc du partage du cinéma. Et il faut savoir que les films, en tout cas des films, par exemple, de patrimoine, peuvent avoir été... monter différemment, avoir eu plusieurs montages et qu'en fait obtenir la copie pellicule d'un film c'est aussi voir le film tel qu'il a été pensé au début c'est un format qui peut être passé de mode mais qui peut être très intéressant aussi à montrer aux jeunes générations, notamment on accueille beaucoup d'ateliers jeunes publics autour du 16 mm, donc voilà, c'est aussi quelque chose de l'ordre de la transmission qui se fait via ce médium-là.
Et il se dit aussi qu'il y a une conservation qui est plus facile avec la pellicule qu'avec le numérique, et en tout cas plus accessible à tous et à toutes.
Ça va dépendre, mais c'est vrai qu'on peut avoir aussi des problèmes. En fait, pour nous, ça peut aussi être plus facile parce que le cours Julien, étant ce qu'il est, on n'a pas forcément une bonne connexion. Et en fait, le format numérique peut aussi poser problème. Donc, finalement, on n'est pas forcément mieux assuré de pouvoir passer un film correctement avec le fichier numérique. Enfin, en fait, chaque médium peut avoir ses problématiques.
Et alors vous, Marie, vous êtes chargée de programmation. On revient là-dessus maintenant. Comment ça se passe, la programmation, dans ce lieu, le Vidéodrome 2? Comment vous décidez des films, des documentaires que vous projetez?
Alors, il faut savoir que donc on n'est pas un cinéma classique, on est vraiment un projet de diffusion cinématographique alternatif. Donc, à ce sens-là, on n'a pas de direction de programmation. On a un comité maintenant qu'on appelle plus de coordination, puisque comme je disais tout à l'heure, on a un lieu d'accueil. Donc, il y a effectivement une partie de certains cycles thématiques qui vont être des cycles de projection sur une semaine, par exemple, qui vont émaner des personnes de l'équipe quand elles ont le temps de les porter. Mais en fait, on va surtout accueillir des propositions extérieures. Donc, je pense que la plupart des festivals de cinéma en ville vont avoir leur place chez nous. Je pense au FIT, je pense à La Première Fois, je pense à Cinéma Brut. Enfin, voilà, toute la diversité qu'on peut accueillir. Et parfois, ça va être plus ponctuel pour des soirées. Voilà, donc... en fait, c'est...
En lien avec ces festivals que vous programmez.
C'est ça.
Est-ce que les publics peuvent aussi avoir une carte blanche?
Oui, bien sûr. C'est aussi un lieu d'accompagnement à la programmation. En fait, encore il n'y a pas très longtemps, on a accueilli une programmation proposée par Kalyan Levy, qui est une programmatrice qui est venue de Los Angeles, enfin, qui avait travaillé dans un cinéma qui était un peu similaire au Vidéodrome 2, mais là-bas, et qui du coup nous a proposé toute une carte blanche autour de films autour de Los Angeles. Donc voilà, c'est de l'accompagnement vraiment qu'on fait, où les gens viennent aussi avec des envies, des idées, des envies de porter des choses. Parce que ce qui est important, c'est pas juste comment le film arrive chez nous, c'est pourquoi on veut montrer celui-là et comment il est accompagné. Donc chez nous, vous trouverez les séances auxquelles vous allez assister vont souvent être accompagnées en début de séance, mais aussi à la fin de la séance. On a très à cœur d'avoir aussi les réalisatrices des films pour parler de ce qu'ils ont fait avec le public.
Donc c'est tout un projet de médiation aussi autour des projections de films.
Oui, exactement. Et il va y avoir des programmations aussi qui vont être faites sur les modèles d'appel à projet, par exemple avec des institutions comme la Cinémathèque du documentaire, qui vont nous permettre d'accueillir justement les réalisateurs et réalisatrices de films documentaires, justement, plus récents, plus contemporains, pour accompagner leurs œuvres.
Alors, vous défendez une idée de lieu alternatif, non commercial, indépendant de l'impératif de l'actualité des sorties, c'est ce que vous disiez en début d'émission, mais aussi accessible à tous et à toutes. Comment ça se traduit? C'est le prix libre aussi, votre... un peu l'idée de ce lieu, c'est des bières accessibles, par exemple, au bar, mais aussi un prix libre pour toutes les projections.
Oui, exactement. Alors, on tient à maintenir des prix accessibles, que ce soit au bar ou que ce soit pour nos séances de cinéma où on propose effectivement le prix libre depuis janvier 2020. Donc, chacun donne en fonction de ses moyens. Et en fait, ça fonctionne sur la base d'une adhésion qui est de 6€ par an. Et une fois qu'on a sa petite carte d'adhérent, on peut participer, assister à n'importe quelle séance à prix libre. Ça donne aussi la possibilité d'aller voir des films dont on n'aurait pas pensé avant et qui laissent la possibilité de découvrir, en fait.
Et vous avez lancé en ce début d'année 2023 un appel aux dons. Donc, comment est-ce que votre vision de ce projet, qui est portée par l'équipe salariée, est-elle conciliable avec une économie stable? Est-ce que vous faites le choix d'une économie basée sur des contributions individuelles ou est-ce que les subventions étaient plus dures à trouver cette année?
Bah, effectivement, en fait, comme on n'est pas un cinéma d'exploitation, à proprement parler, on n'est pas relié au CNC, donc on ne bénéficie pas des aides qu'un cinéma classique d'exploitation pourrait avoir. Il y a un enjeu institutionnel qu'on travaille, qui commence un peu à porter ses fruits, mais encore, disons qu'on n'est pas forcément reconnu par toutes les institutions. Et effectivement, si on porte cette accessibilité via le prix libre, c'est pas forcément ce qui nous permet de toujours nous rembourser, par exemple, sur les droits de copie, sur les frais de faire venir une copie pellicule. Et c'est pour ça que le lieu, en fait, il s'était fondé sur une double structure. Et c'est là où le bar prend toute son importance, c'est qu'en fait, le bar est une SCOP, qui accueille en fait l'association chargée de la programmation, tout en est, donc la SCOP étant soumise au principe de l'association. Et faire tourner ce bar, c'est aussi beaucoup de travail, c'est 140 heures quand même par semaine. Et en fait, ce bar qui est notre principale source en fait de revenus, la situation sur le cours Julien n'était pas exactement la même il y a 10 ans quand le projet s'est formé qu'aujourd'hui. Il y a eu vraiment une explosion concurrentielle au niveau des bars. Et donc on peut légitimement comprendre que les gens soient peut-être moins attirés par notre offre que par celle avoisinante. Et donc c'est là qu'il faut que nous, si en fait on veut pouvoir survivre, c'est là où on s'est résolu à demander l'appel à contribution, effectivement.
Parce que le bar suffirait à payer cette activité seulement de bar et pas en plus celle de l'association et de la diffusion.
Bah en fait, au début, ça suffisait. C'était vraiment le bar qui pouvait assumer les coûts, par exemple, bah, de la communication, des droits, ce genre de choses. Et en fait, là, le rapport s'est un peu plus inversé, où le bar suffit en fait à peine à payer les salaires de l'équipe. Et en fait, les subventions qu'on peut avoir, qui sont somme toute assez minimes sur l'association, ne vont pas suffire en fait à compenser cet écart-là, cette baisse.
Alors, vous êtes une équipe de combien ? Comment ça fonctionne entre vous ?
Alors, on est une équipe de salariés de 8 emplois temps plein, c'est-à-dire 8 emplois temps plein, c'est un 35 heures, qui sont répartis sur 11 personnes. Donc on a des contrats à temps partiel, à mi-temps, et seulement deux contrats vraiment pleins. Et on a également, on accueille des personnes en service civique et en stage, donc pour un total de 15 personnes. Mais en fait, les missions sont souvent très transversales, c'est-à-dire que la totalité de l'équipe en ce moment fait du bar, a des missions liées au bar en fait, parce qu'on a aussi une réduction d'effectifs de l'équipe salariée à la rentrée 2022, septembre. Et donc en fait, chacun assure des missions de bar, plus par exemple de régie, par exemple de communication, par exemple de coordination de programmation, par exemple de gestion administrative. En fait, c'est tous ces petits éléments-là qui font que le lieu puisse perdurer, quoi.
Et alors, cet appel à dons, on peut le retrouver sur Hello Asso, et tout est bien expliqué justement sur la situation, sur ce que défend le lieu, et sur pourquoi avoir besoin de ces contributions individuelles. C'est à hauteur de combien cet appel à dons ?
La somme qu'on vise, c'est 20 000 euros. En fait, ça correspond à ce qu'on a perdu l'été dernier, justement sur les revenus du bar, parce qu'il faut savoir que le cinéma est fermé l'été, parce que ce serait pas possible de le faire tourner 365 jours. C'est 20 000 euros, c'est ce qu'on a perdu l'été dernier en termes de trésorerie, quoi. Donc c'est juste de la survie, en fait.
Et pour l'instant, il y a déjà pas mal de contributeurs et contributrices individuelles.
Alors, on a été agréablement surpris de voir qu'effectivement, notre public a assez vite réagi et s'est positionné tout de suite et s'est engagé sur notre campagne. Voilà, on espère que ça va continuer.
C'est un appel aux auditeurs, auditrices de Marseille, mais petites d'ailleurs, qui sont cinéphiles par ailleurs, qui ont l'appétence ou de la curiosité pour cette structure-là, qui pourraient imaginer aussi en monter une dans leur ville respective. Est-ce qu'on peut rappeler les horaires du Vidéodrome 2 au cours Julien à Marseille, les horaires d'ouverture, et où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations sur ce lieu ?
Oui, alors on est ouvert du mardi au dimanche. Il y a des séances donc du mardi au dimanche, à partir de 17h, 18h l'après-midi, on est ouvert jusqu'à minuit, 2h du matin, selon les jours, le week-end, etc. Toutes les infos sont à retrouver sur le site du Vidéodrome 2, sur les réseaux sociaux également, Facebook, Instagram.
Et on rappelle que le Vidéodrome s'implante sur le territoire marseillais et en lien avec beaucoup, beaucoup d'autres assos et festivals de documentaires, de réalisations. Un dernier mot, oui, peut-être
Là, les prochaines personnes qu'on va accueillir en termes de festival, ce sera sans doute le festival La Première Fois, début mars. Voilà, je pense que ça peut être un chouette rendez-vous de premier film documentaire. Voilà, ça peut être l'occasion de s'y retrouver.
En mars 2023, rendez-vous au Vidéodrome 2. Et merci à vous, Léa Drévon, chargée de communication, et Marie Andriol, chargée de coordination de programmation dans ce lieu.